L'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. La parole de lumière et de vie. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour parler de la lumière. Il vint pour que tous croient grâce à ce qu'il disait. Il n'était pas lui-même la lumière. Il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, quelques-uns l'ont reçu et l'ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Jean a parlé de lui, il s'est écrié. C'est de lui que j'ai parlé en disant, il vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, l'a fait connaître. Amen. Chers amis, il fut un temps, j'étais responsable d'une association, une ASBL, comme on dit ici en Belgique, à Madagascar, qui prenait en charge psychosocial, sur le plan psychosocial, des personnes vivant avec le VIH. Avant, je croyais que les personnes séropositives étaient tout de suite condamnées et que les mères ayant le virus ne pourraient pas avoir d'enfants sans courir le risque de transmettre le virus à son bébé. Mais heureusement que j'étais dans cette association pour bénéficier plus de formations intéressantes, y compris celle qui m'a initié qu'il était vraiment faisable de protéger un fœtus si les parents ont su prendre d'avance des traitements donnés à la mère afin d'empêcher la transmission du virus à l'enfant. C'est possible. Alors si l'homme et la science arrivent à ce résultat extraordinaire, n'est-il pas possible à Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, de rendre possible une incarnation ? C'est-à-dire une femme qui n'a jamais connu un homme puisse être enceinte, et surtout, la deuxième partie qui pourrait encore nous choquer, qui est peut-être encore plus difficile pour nous, dans notre logique humaine, de concevoir que Jésus n'a pas hérité le péché de sa mère, Marie, comme le virus du sida, comme je viens de le dire tout à l'heure. Puisque c'est là que ça bloque chez certaines personnes. Comment se fait-il qu'il n'a pas hérité du péché, pourtant il a été enfanté par une mère?
Et donc là, une question se pose. Qu'en est-il de ce corps de Jésus ? Il y a un grand mystère autour de ce corps de Jésus, ce Jésus qui est né à Bethléem. Il n'est pas le fruit d'une union entre une femme et un homme, et pourtant il est humain. Qui est cet enfant ? Ici, Jean nous donne des pistes de réflexion. Il met côte à côte l'incarnation et la création. C'est le seul de parmi les évangélistes qui a mis côte à côte l'incarnation et la création en même temps. C'est-à-dire, avec l'incarnation de Jésus, c'est une chose nouvelle qui n'a jamais existé depuis la création qui est arrivée au jour de Noël. Vous voyez l'ampleur de la nativité du Christ. C'est une nouvelle chose qui n'a jamais existé sous le soleil. Et la raison est simple. Si nous regardons la création, il n'y avait que les animaux, les végétaux et l'homme. Or ici, avec l'incarnation, Dieu fait une chose nouvelle. Dieu qui se fait homme, avec un grand H. Ce n'est pas un être hybride. C'est un corps qui rassemble deux éléments de nature différente. Ce n'est pas un être hybride. Tandis que l'incarnation, c'est vraiment autre chose. Il a la condition divine à 100%, mais aussi la condition humaine à 100%. Donc, tout sur Jésus est humain et tout sur Jésus est divin. Il n'est pas un demi-dieu, comme Superman tout à l'heure. C'est un être humain qui habite en lui la force d'un dieu, voilà un demi-dieu. Quelqu'un qui habite la force d'un Dieu, mais il est Dieu et il est aussi un être humain. L'incarnation est quelque chose de, je peux l'admettre, scandaleuse, inadmissible pour la raison humaine. Et sur le plan rationnel, c'est inadmissible, car dire qu'un Dieu ait pu sortir d'une personne humaine, c'est du n'importe quoi. Un Dieu qui sort d'un être humain, c'est blasphématoire chez les musulmans. Et on peut te lapider pour ça. Normalement, la logique des choses, c'est Dieu qui prête vie à l'homme, non ? C'est Dieu qui nous donne vie. Et ici, c'est l'homme qui donne vie à Dieu. Une femme qui prête vie à Dieu, c'est le monde à l'envers. Et de ce fait, je peux parfaitement comprendre l'incompréhension de ces gens-là. C'est compréhensible et il ne faut pas les accabler. Je comprends leur colère, la colère des libres penseurs concernant leur refus sur l'incarnation. C'est plus que normal. Et j'arrive même à un niveau, j'ai même l'empathie pour ceux qui sont choqués face à cela. Je peux bien comprendre. En résumé, le message de Noël est un message paradoxal. Et grâce à l'incarnation, la parole qui a ce caractère infini, cette parole a pu être contenue dans un corps. Vous voyez déjà, l'infini ne peut pas être mis dans un corps, puisque le corps est limité dans le temps et l'espace. Donc Dieu fait encore quelque chose qui est tout à fait nouvelle. L'infini ou l'éternel ne peut pas vivre dans un corps, chers amis. Mais Dieu l'a fait. Il a fait l'impossible. C'est le plus grand des miracles. Ce n'est pas la résurrection de Lazare. Ce n'est pas la guérison des malades. Le plus grand des miracles qui existent depuis que la terre existe, c'est l'incarnation. C'est pourquoi Jésus peut marcher sur l'eau, par exemple, parce qu'il a cette divinité-là en lui, sans qu'il se noie. Rappelez-vous aussi, lors de sa résurrection, une pièce fermée à clé, aucune ouverture, et tout à coup, voilà Jésus qui se tient au milieu, puisque ce corps, il est divin. Et en poussant plus loin la réflexion sur l'incarnation, je me suis posé une question. Je me suis encore fait plus de mal à ma réflexion. Pourquoi Dieu a choisi de s'incarner dans un corps d'un bébé. Voilà d'où vient ma réflexion. Il aurait pu, par exemple, créer un corps d'un adulte, comme il avait fait avec Adam. Si vous lisez le livre de la Genèse, Adam, il était déjà adulte dès le début. Hein. Il n'était pas bébé. Il aurait pu faire un corps d'un adulte. Or, Paul dit que Jésus est le second Adam, donc ce serait plus facile de croire à ça. Il aurait pu s'incarner dans un corps d'un homme adulte, indépendant, qui ne dépend pas d'une personne. Mais non, il a préféré s'incarner à l'état nourrisson. On dirait qu'il fait exprès, non? Il ne nous facilite pas la tâche, ce bonhomme. Pour pouvoir croire en lui, on aurait pu dire, allez, donne-nous un petit coup de main pour croire en toi. Mais il fait encore l'opposé de ce que nous attendions. Et c'est là, chers frères et sœurs en Christ, que je réitère à chaque fois la phrase suivante. Il n'est pas si évident que cela de croire en Dieu. Pour toi, ça semble si facile. Il n'est pas si évident de croire à la parole de Dieu. Et là, je reprends une phrase d'un prêtre que j'aime bien et qui s'appelle le prêtre Henri Boulade en Égypte. Il a une belle formule que je trouve juste. « Croire, dit-il, c'est précéder le futur. » Précéder le futur. Ce qui gêne la réflexion humaine dans cette doctrine de l'incarnation, est-il possible qu'un petit corps d'un bébé peut contenir la puissance de Yahvé? Vous imaginez la puissance de Yahvé? Allez au mont Sinaï. Rappelez-vous, quand Israël voulait voir Dieu, on veut le parler. Même la montagne s'est fondue à cause de la force de ce Dieu. Comment se fait-il? Il y a eu même des réformateurs protestants qui ont du mal avec cette incarnation parce que l'éternité est si vaste, si puissante, et c'est impossible qu'un corps d'un bébé puisse contenir cette force. D'ailleurs, pour cette raison que les autres religions n'arrivent pas à concevoir l'idée d'un humain divinisé, et de plus, associer le divin avec l'humain, je répète encore, c'est blasphématoire pour nos amis musulmans, par exemple. Et pourtant, ce message de l'incarnation est un impact colossal pour notre foi chrétienne. Il ne s'agit pas juste de dire « accepte cette doctrine » ou d'adhérer à une idéologie. Ça servirait à quoi de croire à ça? Ce qu'il faut souligner, c'est que l'incarnation a ouvert une porte pour nous, humains, de pouvoir entrer en contact avec le divin qui auparavant était un cercle restreint. Grâce à lui, nous pouvons avoir accès au divin. Regardez le verset 12, il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Cela signifie que nous aussi qui sommes des êtres humains conçus dans la chair, et c'est ça le miracle de Noël, ça ne s'arrête pas à Jésus, ça se contamine vers ceux qui croient en lui, nous aussi, nous serons transformés en corps céleste. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous pourrions devenir à notre tour des enfants de Dieu parmi la famille de Dieu. Et le procédé va dans le sens inverse du jour de la naissance du Christ. Le Christ vient à nous dans la chair et nous, nous allons au Père dans le nouveau corps qu'il va nous donner lors de notre résurrection. Vous voyez l'impact de l'incarnation? S'il n'y avait pas l'incarnation, on ne pourra pas espérer à la résurrection. Par conséquent, le message de Noël n'est pas juste une date de commémoration ou juste un détail et de dire que ce n'est pas si grave si les gens n'adhèrent pas à Noël ou pas, c'est pas grave. Non, je suis désolé. C'est la colonne vertébrale de notre foi chrétienne. La venue du Fils de Dieu parmi nous, ici-bas, est une ouverture du ciel donnant accès à tous ceux qui croient en lui. Le jour où le Fils de Dieu a quitté son royaume, en venant parmi nous, il a inauguré le chemin d'accès. Dès que le Christ a quitté le ciel, une porte s'est ouverte. Tel est le sens de la louange des anges. Rappelez-vous à Bethléem, gloire à Dieu dans les lieux très, très hauts et sur la terre parmi les humains en qui il prend plaisir. Ce lieu très haut qui n'est autre que le siège du Dieu Tout-Puissant, dorénavant les humains, toi, moi, nous pourrons venir devant son trône un jour. Vous imaginez ? Mais attention, nous ne serons jamais des dieux. Comme Superman tout à l'heure. En revanche, le Christ, lui, il a été humanisé, c'est sûr. Mais cette humanité de Jésus est la main de Dieu qui nous prend et qui nous adopte. Et toujours l'apôtre Jean, qui a compris vraiment cet amour de Dieu, dans son épître nous donne plus de précision, et voilà ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. « Bien-aimé, maintenant, tu es enfant de Dieu, certes, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté, mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, et là, écoutez bien, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Comment définir ce mot semblable à Christ ? On vient de dire tout à l'heure, lors de la méditation pour les enfants, imiter le Christ. Semblable, il faut voir le texte grec pour nous donner plus d'éclairage. Et ce terme parle de quelque chose de similaire ou au rang égal. Voilà. Nous serons au rang égal au Fils de Dieu, c'est-à-dire des co-héritiers du royaume de Dieu. Nous aurons un titre, nous aurons un laissez-passer devant le Père. Voilà le cadeau de Noël. C'est pas juste « Oh, qu'il est beau le bébé, oh, alléluia, douce nuit, sainte nuit », mais c'est grâce à ce bébé que nous pourrons espérer entrer là-bas, là-haut, plus tard. Effectivement, la foi en Christ nous permet de recevoir ce titre officiel, enfant de Dieu par adoption, puisque seul le Christ qui est l'image de Dieu, tandis que nous sommes à l'image de Dieu. Vous voyez la différence ? Christ est l'image de Dieu et nous, nous sommes à l'image de Dieu. Toute la différence se trouve dans ce déterminant « à ». Alors nous pouvons comprendre le pourquoi de la venue du Fils de Dieu parmi nous. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas juste, on va dire, descendre du ciel sur son trône, annoncer du ciel, « Voilà mes enfants, vos péchés sont pardonnés. » Mais cela n'est pas suffisant. Parce que si nos péchés ont été pardonnés, ce n'est pas encore ça. Nous n'aurons pas eu accès dans l'endroit où Père habite et de revêtir notre nature humaine. Et pour clôturer ma méditation, je reprends le propos de Paul, Éphésiens chapitre 2, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches de Dieu par le sang de Christ. Tu es proche. Grâce à ce Jésus, tu peux côtoyer le Père. Vous imaginez, dans la Bible, on utilise le « tu » quand tu t'adresses à Dieu. On ne dit pas « vous, Père ». « Tu ». Vous croyez que cette intimité s'est faite tout seul ? C'est grâce à ce bébé. C'est grâce à ce Jésus que nous pouvons tutoyer le Père. Amen.